France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La génération d'avant que nous sommes y voyait un rite de passage, une porte d'entrée en forme de rituel vers la maturité. C'est d'ailleurs comme ça, d'ailleurs, la maturité que s'appelle le certificat de fin d'études secondaires dans certains pays d'Europe. Le bac chez nous, autrefois, était sélectif. La question de son utilité, voire de sa suppression, c'est un serpent de mer depuis plus de 30 ans et c'est devenu un sujet plus récurrent encore quand il a cessé d'être aussi sélectif qu'il l'était puisque le taux de réussite dépasse les 90%. Intéressant quand même au passage de noter que l'examen perd de sa valeur lorsqu'il se démocratise. Pour l'instant, on pose cette remarque sur la table, on la récupérera plus tard. Bref, depuis la réforme Blanquer et l'entrée du contrôle continu dans la note finale pour 40%, l'épreuve fait encore moins figure de sésame. Trois disciplines, un oral. À cela s'ajoute un calendrier, c'est au même moment. Le calendrier, c'est la place prépondérante prise par Parcoursup. L'essentiel n'est pas d'avoir le bac, l'essentiel c'est d'avoir ses vœux satisfaits. Et le résultat de ses vœux tombe doucement d'ailleurs depuis aujourd'hui. Le bac, il ne fera qu'acter un choix. Le vrai stress, donc le vrai enjeu, c'est de rafraîchir son ordi pour regarder tomber les réponses des établissements d'enseignement supérieur que vous souhaitez. Alors, est-ce qu'on le garde pour le symbole, ce bac? Est-ce que ça compte à ce point-là, le coût du rite de passage commun à tous? Est-ce que c'est ringard au fond de le penser? Est-ce qu'il est vraiment égalitaire, ce bac que tout le monde a désormais, ou presque? Y a-t-il un moyen de remettre du sens dans cette épreuve? Est-ce que c'est une histoire de calendrier, là encore, en remettant les spécialités au mois de mars, ou ce n'est que ça avait été le cas, pour qu'elles puissent compter dans Parcoursup? Est-ce que le bac est mort? Faut-il le supprimer? Si c'est le cas, est-ce que c'est Parcoursup qui l'a tué? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mathilde, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Mathilde.
Eh bien, je suis professeure en lycée, professeure de langue. Et donc, on a vu très nettement, depuis la réforme bancaire, nos mois de juin s'effilocher et même disparaître complètement avec la nouvelle mouture des épreuves. Et donc quasiment plus d'épreuves du tout, avec des élèves qui avaient leurs réponses pour 2023, il me semble, très très tôt, mmh. Et finalement n'avoir plus personne, plus aucun élève à partir du mois de mai, puisque les épreuves avaient été anticipées à cette époque-là. Voilà.
Est-ce que vous avez des regrets, vous, d'une période ancienne? Est-ce que vous vous dites, non, parce qu'on a gagné des choses avec le contrôle continu, donc est-ce que vous vous dites, finalement, on garde l'entre-deux, c'est-à-dire on maintient ces épreuves communes, si je puis dire, et le bac a encore un sens? Qu'est-ce que vous en dites, vous, l'enseignante, Mathilde?
Alors, pour moi, le contrôle continu, on a tout perdu.
Ouais.
Vraiment, puisque les élèves, maintenant, sont sous pression toute l'année, voire en commençant dès le lycée puisqu'il y a les spécialités à choisir. Mmh. Donc ils sont sous pression. Nous sommes sous pression puisque nous donnons les notes et donc sous pression aussi des parents. Au moment où l'IA vient de plus en plus s'inviter dans les devoirs à la maison, que nous ne donnons plus par ouais. ailleurs. Personnellement, je trouvais qu'il y avait vraiment un très grand intérêt à une épreuve finale ponctuelle que tout le monde passait en même temps et qui donnait une sorte de solennité et une équité pour tous.
Solennité et équité, c'est deux mots que je vais retenir de votre intervention, Mathilde. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble ce soir autour de la table. Il y a Caroline Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de l'enseignement scolaire. Il y a Stéphane Lipianski, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études du think tank Vers le Haut. Et il y a Pierre Mathieu. Bonsoir, monsieur Mathieu.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, vous avez écrit un rapport qui s'appelle Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles. C'était en 2018 et c'est ce qui a inspiré la réforme du bac. Vous êtes en duplex depuis ICI Nord. On remercie nos amis d'ICI Nord. J'ai commencé avec vous, Pierre Mathieu, parce que j'ai entendu que lorsque Mathilde a parlé, vous avez dit « ouch » à un moment quand l'enseignante qu'elle est disait que finalement elle avait le sentiment que tout le monde était perdu. Qu'est-ce qu'il dit votre « ouch » Pierre Mathieu?
C'est des discours qu'on entend assez souvent. Moi, plaçons-nous du côté des élèves. Je pense que, par exemple, ce qu'a évoqué donc ma collègue à l'instant là au téléphone, c'est que il y a du contrôle continu. Moi, je considère qu'il est bien que les élèves obtiennent le baccalauréat, pas simplement sur des épreuves qu'on passe au mois de juin, où on jouait sur 7, 8, 9 épreuves sa peau. Donc que le contrôle continu soit pris en compte, ça me paraît une bonne idée, une bonne nouvelle. Et la France était l'un des très rares pays pour lequel l'équivalent du bac ou le bac, on jouait tout sur les épreuves finales. Donc évidemment, le splendide isolement de la France, mais je pense que pour le contrôle continu, c'est bien, même si ça produit évidemment des effets négatifs. Sur le mois de juin, j'ai pas très bien compris, parce que le mois de juin, lorsqu'il y avait 7, 8, 9 épreuves, son fonctionnement était encore plus perturbé qu'il n'est aujourd'hui. Donc pareil, je vois pas trop. Et puis, faut aussi tenir compte d'une chose qu'on a peut-être pas dite encore ce soir, c'est que c'est normal, le débat commence.
On commence à peine.
si on prend simplement le bac général... On est maintenant à 96% d'admis au bac général. Quand j'ai passé mon bac, c'était il y avait un tiers qui ne l'avait pas et j'ai passé mon bac. Il y avait 30% d'une classe d'âge qui obtenait le baccalauréat. Donc, faut aussi admettre que la place relative du baccalauréat dans le système de formation a totalement changé et que la réforme qu'on a menée, enfin que Jean-Michel Blanquer a menée un petit peu sur mes conseils, elle a essayé d'accompagner. Cette évolution, hein, on ne peut plus dire que le bac aujourd'hui est comparable à ce qu'il était dans les années 60, 70, 80, très simplement parce que les taux de réussite aux épreuves sont majorés, les taux même de réussite avec mention sont sans proportion avec les années 80, 90, 2000, et aussi parce que dans une classe d'âge, on est à plus de 80% aujourd'hui d'une classe d'âge qui a le bac. Donc, pour ces raisons-là, il fallait, me semble-t-il, le réorganiser.
On va poser la question évidemment à nos autres invités, Pierre Mathieu, mais là-dessus, ce que disent la plupart des gens, ce qu'on voit tomber au standard, et c'est ce que je disais d'ailleurs en introduction, c'est de dire que puisque les résultats de Parcoursup tombent avant, de toute façon, ça n'a plus que valeur de symbole, en fait, que les épreuves qu'on passe, qui sont les épreuves communes, le référentiel commun, en fait. Est-ce que, du coup, ça fait perdre de la valeur à ce référentiel commun, selon vous ? Et est-ce qu'à terme, on se dit, elles finiront par disparaître, en fait, parce que le sens qu'elles avaient, aujourd'hui, n'est plus le même ?
Alors, moi, je pense que le bac doit perdurer. Les épreuves finales nationales du bac, moins nombreuses, hein, mais elles doivent perdurer parce qu'il y a une dimension de rituel de passage. C'est très important pour des élèves de passer tous ensemble des épreuves et d'être notés tous ensemble, non pas de la même manière, parce que les professeurs ne notent pas tous de la même manière, mais avec les mêmes sujets. Mais je pense que, et vous le savez bien sans doute, vous rappelez, Madame Synthèse, c'est que moi, nous étions avec Jean-Michel Blanquer partisans de mettre les épreuves de spécialité au mois de mars pour une seule raison. C'est pour
que ça rentre dans Parcoursup.
Dans Parcoursup. Or, évidemment, en 2023, il y a eu la polémique sur l'absentéisme des élèves qui a conduit le ministre Gabriel Attal à renoncer à remettre les épreuves au mois de juin. Et évidemment, aujourd'hui, si les quatre épreuves qui comptent pour 60% du bac qui se passent au mois de juin se passent toutes après que les résultats de Parcoursup aient été rendus publics et que déjà ce soir, plus des deux tiers des élèves ont une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur, considère moi que ça a contribué à dévaloriser les épreuves terminales du baccalauréat.
Caroline Pascal, c'est à peu près ça le chiffre aujourd'hui, parce qu'effectivement, voilà, 66%, ça tombe doucement, effectivement. Et chacun rafraîchira au fur et à mesure, parce que c'est juste la première salve. Donc si on a fait d'autres choix, on attend aussi derrière de savoir.
Peut-être, si vous me permettez de réagir,
je vous en prie,
à la fois aux propos de Mathilde, que je remercie en collègue de langue, et aux propos de Pierre Mathieu. Je voudrais rebondir sur le mot de solennité.
Solennité et équité.
C'est
solennité,
vraiment important, parce que je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur le fait que ça reste, et vous l'avez évoqué aussi, un rite de passage. C'est la fin de l'école. Au sens large du terme, c'est l'entrée dans la vie d'adulte. Pour certains, c'est le seul diplôme qu'ils auront. Pour d'autres, c'est le premier diplôme universitaire. Ça correspond souvent aussi même au départ de la famille, etc. Donc, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, la liesse des élèves le 4 juillet, quand ils reçoivent leurs résultats, prouve que ça veut encore dire quelque chose pour les familles comme pour les élèves.
Ça veut dire aussi qu'on a envie de le jouer, en fait.
Et on a envie
aussi
de le jouer.
Il y a aussi
là-dessus,
chose
je voudrais peut-être tout petit peu corriger ce que disait Pierre. Bien sûr, le contrôle continu représente 40%. Les épreuves terminales représentent 60%. Mais se joue encore en juin de l'année de terminale 50% des coefficients sur les épreuves de spécialité, le grand oral, la philosophie. Donc, moi, je ne dirais pas que tout est joué quand on a ces vœux de Parcoursup. Les vœux de Parcoursup ne seront une réalité que le jour où les élèves auront leur bac.
Mais ce que ça dit, c'est que, et peut-être que vous allez me contredire, vous avez le droit, Stéphane Lipsanski, on s'arrache plus sur ce moment du bac, en fait, parce qu'à partir du moment où on sait, puisqu'on a reçu les résultats de Parcoursup, la mention, évidemment, n'a plus de sens. Donc, on peut faire le service minimum, pour dire les choses très honnêtement, ou est-ce qu'on se trompe quand on réagit comme ça ?
En fait, moi, ça m'inspire deux idées. C'est qu'effectivement, beaucoup de choses se sont décalées sur l'enseignement supérieur désormais. Des chiffres effectivement intéressants, c'est qu'au début des années 80, il y avait 25% d'une classe d'âge qui avait le bac. Aujourd'hui, c'est même 25% ont un master. Mmh. Donc effectivement, beaucoup d'enjeux se sont décalés sur l'enseignement supérieur.
Reportés sur l'enseignement supérieur, en
oui,
fait.
Oui, y compris dans l'acquisition des compétences, puisque quand on voit sur les études internationales, notamment celles qui sont menées auprès des adultes, que les hauts niveaux de compétences en France, ils sont concentrés sur les diplômés du supérieur. Et puis en même temps, moi, la remarque de Mathilde, elle m'inspire quand même quelque chose d'important, c'est que si les jeunes désertent le lycée une fois finalement ces enjeux passés, c'est aussi probablement qu'ils ont l'impression que tout le lycée est concentré sur la préparation de leur dossier Parcoursup et du baccalauréat, au détriment parfois d'aspirations qu'ils ont à construire vraiment leur parcours professionnel ou à développer des compétences dont ils sentent qu'ils ont beaucoup besoin, comme la confiance en soi, par exemple, qui est largement vue comme une compétence qu'ils ne développent pas à l'école, et qui vont les chercher ailleurs, qui vont les chercher en dehors du lycée. Donc, quelque part, c'est aussi le symptôme que le lycée ne répond pas forcément aux aspirations des jeunes, passer ces passages obligés que sont les candidatures dans le supérieur pour une majorité d'entre eux, et aussi le passage du bac, effectivement.
On va retourner au standard, Pierre Mathieu, dans la remarque de Mathilde, il y avait donc cette histoire de solennité auquel chacun a répondu, il y avait aussi équité. Et la question que je me pose, et ça va revenir souvent, c'est le cas d'ailleurs de notre prochain auditeur, est de savoir si aujourd'hui l'équité est meilleure. En fait, si on se dit que le bac tel qu'il est aujourd'hui est d'une meilleure équité qu'il l'était avant, et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut le conserver, ou pas.
Écoutez, moi je trouve que, parce qu'évidemment, ce que entendait notre collègue tout à l'heure, c'était le fait de dire quand c'est du contrôle continu, l'équité n'est pas respectée parce que les élèves sont notés par des professeurs qui les connaissent, ou en tout cas en partie, donc par rapport à des épreuves nationales, qui sont des épreuves anonymisées, en tout cas les épreuves écrites. Mm-hmm. Donc c'est sûr, moi je pense qu'il y a une forme d'équilibre là encore dans la réforme, c'est-à-dire qu'il y a évidemment du contrôle continu, donc le contrôle continu repose sur des notes données en général par des professeurs à des élèves qu'ils connaissent, et c'est vrai aussi, Mathilde donc l'a dit tout à l'heure, ça peut aussi poser des problèmes parfois de relations entre les professeurs et certains parents qui ont peur qu'une mauvaise note contribue à mal positionner leur enfant par rapport à Parcoursup, mais il y a aussi des épreuves finales du bac qui sont par définition anonymes. Donc vous voyez, c'est une espèce d'équilibre, un équilibre contrôle continu, contrôle final, et dans le contrôle final, je pense que ces garanties d'équité sont absolument respectées.
Élèves qu'ils connaissent, il a raison, Pierre Mathieu, Caroline Pascal, on connaît les élèves, donc en termes d'équité, moi, mon interrogation, elle est au fond d'un lycée à l'autre, en fait, d'un établissement à l'autre, et même au fond d'un département à l'autre. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens sur WhatsApp là, qui nous parlent de tricherie potentielle aussi dans ces 40%-là.
Non, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet dont le ministère s'est saisi immédiatement, c'est-à-dire dès 2021, quand le bac a pris cette nouvelle forme avec 40% de contrôle continu, le travail avec les équipes pédagogiques et l'ensemble des professeurs pour travailler sur la notation, pour que cette notation soit le plus équitable possible et que justement le lycée auquel on appartient, la connaissance des professeurs et de leurs élèves, ne soit pas un enjeu. Aujourd'hui, on travaille encore avec l'ensemble des professeurs de première et de terminale pour qu'au sein de l'établissement, on trouve des projets d'évaluation, ce qu'on appelle les projets d'évaluation dans les lycées, de manière à ce que les élèves sachent quelles notes vont compter. Mmh. Sache celles qui, au contraire, ne seront pas prises en compte dans le contrôle continu, puissent avoir une explication en amont comme en aval de la note qu'ils ont reçue. Et puis, on a, malgré tout, des commissions d'harmonisation qui s'assurent qu'il n'y a pas un établissement qui surnote de manière évidente ou qui sous-note de manière flagrante.
On parlera, vous prendrez la parole là-dessus, Stéphane Lipianski, justement, de ce qu'on regarde. Au fond, on vous disait que la responsabilité, c'était celle du supérieur désormais. Est-ce que le supérieur regarde les notes? Est-ce qu'il regarde le lycée? D'où viennent les notes? Et est-ce que ça change quelque chose? Je voudrais d'abord qu'on écoute Ricardo qui nous attend. Bonsoir Ricardo.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi je suis enseignant supérieur depuis presque une vingtaine d'années. Mm-hmm. Et on constate de plus en plus que les étudiants qui arrivent ont de moins en moins de bagages nécessaires pour suivre les enseignements. Alors c'est dû évidemment à la facilité du bac qui est de plus en plus évident. Excusez-moi. Mm-hmm. Et c'était pas le cas quand j'ai passé le bac, par exemple, où le bac était, pour ainsi dire, un sésame pour rentrer à l'université. Ça témoignait du fait qu'on avait les moyens le bagage intellectuel pour pouvoir suivre les cours. Et maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt quelque chose qui témoigne, qui dit que bah, puisque j'ai le bac, je peux suivre les cours à l'université. Mmh. Et donc, ça oblige les universités à admettre plein de beaucoup d'étudiants et plus qu'ils devraient suivre les cours. Et donc, c'est parce que d'être un quelque chose qui témoigne d'un niveau à quelque chose qui oblige les universités et à revoir les programmes à la baisse comme on est en train de faire en ce moment, voire d'ouvrir des parcours de remise à niveau supplémentaire et de prendre le rôle que devrait avoir le lycée et la formation des étudiants.
Merci beaucoup Ricardo pour votre remarque. Stéphane Lipianski, est-ce que les compétences minimum au fond sont différentes quand on est dans un bac comme aujourd'hui, c'est-à-dire avec 40% de contrôle continu, ou dans le bac d'avant avec des épreuves finales pour tout le monde, où à la fin la remarque de Ricardo serait la même de toute façon, qu'on parle d'une épreuve comme celle qu'on connaissait avant ou du nouveau bac?
Je pense qu'on peut ajuster la difficulté dans les deux cas, donc c'est pas fondamental, je pense. Ce qui est vrai, c'est que enfin, la remarque de Ricardo, elle me fait penser au fait que finalement, on a investi beaucoup de promesses dans ce baccalauréat, de dire, ben, effectivement, on va le démocratiser, on va permettre à une grande partie, à une majorité d'une génération d'accéder à l'enseignement supérieur. Et la réalité de cette promesse, effectivement, elle est un peu rude pour les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, en mois de juin, on leur dit « c'est super, vous êtes à la hauteur de nos attentes ». Et au mois d'octobre, quand ils ont leur première note à l'université, on leur dit « mais ça va pas du tout, vous avez pas le niveau », etc. Il faut quand même voir que pour une majorité d'élèves qui vont continuer à l'université, la première année, c'est une année qui est marquée par un échec. Mmh. C'est-à-dire soit un redoublement, soit une réorientation. Alors, qui n'est pas forcément un échec, une réorientation, mais en tout cas, ça peut être vécu tel quel. Et donc finalement, effectivement, on a investi beaucoup dans cette promesse du bac, sans finalement, effectivement, toujours derrière s'interroger sur quelles sont les compétences qu'on veut que ces élèves acquièrent effectivement à l'issue de leur parcours dans le secondaire, et qui se prennent un peu comme un mur, effectivement, un peu plus tard. Et même pour certains qui sont diplômés du supérieur, où on leur dit dans le monde du travail, mais attendez, c'est pas du tout ça qu'on attend de vous, etc. 80% des dirigeants d'entreprise estiment que, effectivement, l'enseignement scolaire n'est pas adapté aux réalités du monde du travail. Donc il y a cette belle promesse, et il y a cette difficulté, cette dureté du parcours par la suite.
Il y a, Pierre Mathieu, une phrase qu'a prononcée Stéphane Lipianski, il a dit « réorientation ». Et peut-être qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que les notes du bac, dont on a l'impression qu'elles ont finalement très peu d'importance, puisque l'admission à Parcoursup est déjà là, elles ont de l'importance lorsqu'on est en réorientation, parce que cette feuille-là va finir par avoir une importance beaucoup plus importante si jamais on s'est trompé la première fois, et on a carrément le droit de se tromper la première fois, et qu'on est obligé de demander une réorientation. C'est important de le savoir, ça.
Oui, le paradoxe, c'est qu'en fait, les notes du bac au sens des quatre épreuves terminales, donc qui se passent au mois de juin, elles ne servent pas l'année donc du bac pour l'orientation Parcoursup. Par contre, elles peuvent en effet servir pour la réorientation. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait mieux qu'elles servent, en tout cas les épreuves de spécialité, qu'elles servent aussi l'année du bac. Mais évidemment, ça suppose de remettre les épreuves au mois de mars. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que dès lors que vous avez 80, 81, 82% d'élèves qui obtiennent le bac, pas le même, bac général, bac techno, bac pro, c'est pas pareil, attention. C'est assez logique que par rapport, quand c'était 30%, quand moi je l'ai eu par exemple, c'est assez logique que le type de compétences que maîtrise 80% soit pas comparable au type de compétences que maîtrisait 30%, n'est-ce pas? Bon, il y a ce premier problème. Et puis l'autre, donc, mais il y a aussi un autre enjeu, c'est que le fait que 60% des élèves qui montent en licence ne valident pas leur licence, leur L1, l'année prochaine, par exemple, pour les bachelors de cette année. Ça renvoie aussi un problème de compétences, ou un enjeu de compétences, mais ça renvoie aussi au fait que l'université a quand même d'énormes problèmes de moyens, elle est sous-dotée ou mal dotée, et elle éprouve des difficultés à accueillir les élèves, disons, individuellement. Vous voyez, quand vous êtes au lycée, vous êtes 30-35 par classe, c'est déjà beaucoup. Quand vous arrivez à l'université, vous pouvez vous retrouver à plusieurs centaines dans des amphis, à subir des cours à la chaîne, avec des techniques de prise de notes que vous ne maîtrisez pas, parce que vous ne les avez pas vraiment maîtrisées au lycée. Donc vous êtes aussi un peu perdu dans l'enseignement supérieur, pas simplement parce que vous auriez un gap, passez-moi l'expression, de compétences, mais aussi parce que vous n'êtes pas préparé au type d'études que propose encore trop souvent l'université, parce qu'elle n'a pas les moyens d'individualiser le rapport aux études.
Caroline Pascal, l'histoire du mois de mars ou du mois de juin qui a fait beaucoup l'objet de débats divers, la raison pour laquelle on finit par l'arrêter finalement et qu'on revient donc en juin et non pas en mars, au final c'était quoi ? Est-ce que c'est beaucoup trop tôt, donc le programme est absolument pas fini, absolument pas fait, donc ça n'a aucun sens ? Est-ce que c'était effectivement l'année scolaire risquait de se terminer beaucoup plus tôt, ce qui désorganise encore plus ? La raison derrière ça, c'était quoi ? Et qui fait qu'on enlève effectivement les fameuses épreuves du parcours de Parcoursup, pardon.
C'est un peu paradoxal, parce que justement, on est en train de se demander si le bac n'a pas perdu à cause de Parcoursup, et on se demande s'il n'aurait pas mieux valu que les épreuves de spécialité
entrent dans
Parcoursup.
Mais du coup, pour le faire rentrer dans Parcoursup, pour qu'il ait un sens à l'intérieur de Parcoursup.
Mais en fait le baccalauréat, pour moi, et la décision a été prise pour des raisons multiples. Une partie des raisons que vous évoquez, c'est-à-dire le fait qu'il faut l'année entière de terminale pour construire les compétences attendues par un élève de terminale, et donc reporter les épreuves le plus tard possible dans l'année, et puis aussi pour redonner à cette année de terminale toute son intégrité, et que donc les élèves ne disparaissent pas, comme le disait Mathilde au départ, au mois de mai, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Donc, il y avait ces deux besoins. Je voudrais juste compléter aussi par rapport à ce qui a été dit auparavant, c'est que c'est pas tant contrôle continu ou épreuve terminale qui change la donne à l'arrivée dans l'enseignement supérieur. C'est plutôt en effet d'être passé d'un pourcentage d'une génération très inférieure à la moyenne à 80% aujourd'hui d'une génération qui arrive dans l'enseignement supérieur ou qui peut entrer, qui peut accéder à l'enseignement supérieur. Et surtout, des élèves très différents, puisque Pierre Mathiot l'a dit, on a trois types de lycées et donc des élèves qui développent des compétences différentes.
On est en train de parler de baccalauréat, on se demande si il faut supprimer le bac dans le téléphone sonne ce soir alors que les premiers résultats Parcoursup sont donc en train de tomber à partir d'aujourd'hui. Nous sommes avec Caroline Pascal qui est directrice générale de l'enseignement scolaire, avec Stéphane Lipianski qui est directeur des études du think tank Vers le Haut, et avec Pierre Mathiot qui a été l'un de ceux à l'origine de la réforme du bac de 2021, et avec vous Jean-Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean-Christophe.
Bah, je voulais juste faire un petit témoignage. Donc, j'ai vécu 8 ans en Suède, et le cursus des jeunes est très différent, puisqu'en fait, quand vous rentrez finalement dans l'école suédoise, vous savez qu'à la fin, vous aurez votre équivalent bac, quoi. Mmh. Et du coup, on a des enfants qui sont, on annule complètement le stress de ces examens et d'une manière générale des contrôles, etc. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus du coup concentrés sur ce qu'ils apprennent, quoi, si vous voulez. Donc on est sur un système où les enfants sont quand même beaucoup plus, je trouve, heureux que ce qu'on peut voir en France, puisque bon, j'ai vécu les deux en fait, hein, donc j'ai pu voir les deux phases du miroir, si
merci
je veux
dire. Beaucoup Jean-Christophe, merci Stéphane Lipianski, mais nos élèves aussi, ils savent qu'ils auront l'équivalent bac, pour la plupart en tout cas, pour 90% de la classe d'âge à la terminale. Le stress, justement, c'est plus l'examen et ça peut être le contrôle continu, parce que c'est Parcoursup, en fait. Le vrai stress, désormais, c'est juste déplacer d'une épreuve du bac à des choses à remplir, non ?
Oui, mais dans les deux cas, on est dans quelque chose qui repose sur une motivation un peu qui est en dehors du projet de l'élève. C'est-à-dire que finalement, qu'on travaille dans le but de valider son bac ou qu'on travaille dans le but d'avoir des notes pour valider son dossier Parcoursup, en fait, c'est quelque chose qui est effectivement peut s'éloigner des motivations de l'élève qui a envie aussi... ce qui me semble marquant, c'est que quand on a des décrocheurs et qu'on essaye de les raccrocher au système scolaire, on a une approche qui est totalement différente, que ce soit dans les micro-lycées, dans les écoles de la deuxième chance, etc. On leur dit, bon, oubliez le bac, oubliez effectivement les enjeux de sélection, on va travailler sur votre projet personnel, sur le développement de votre confiance en soi, sur le développement de compétences qui vont être utiles pour votre projet personnel, qui vont être recherchées dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on commence déjà à travailler sur un projet pro qui commence en amont du baccalauréat et qui prend du sens pour des élèves, effectivement, qui sentent le besoin d'être raccrochés à leur futur, à un sens, etc. Et donc, j'ai l'impression que ce soit Parcoursup ou que ce soit le bac, ça aspire un peu totalement l'énergie. Enfin, moi, j'ai été enseignant aussi au lycée. Je voyais en face de moi, en STMG, donc dans le bac technologique, je voyais en face de moi des élèves qui, effectivement, avaient envie d'aspirer à plein d'autres choses que ce qu'on voulait leur enseigner. Et moi, je me disais, le programme, parce qu'ils ont le bac et que je ne veux pas les pénaliser, je veux pas... Et voilà. Mais en fait, j'avais envie de parler, de faire plein d'autres choses avec eux. J'avais envie de réfléchir au monde, j'avais envie
de... Vous pensez que le système tel qu'il est actuellement vous permet justement de réfléchir à plein d'autres choses plutôt, effectivement, d'être focalisé sur cette épreuve finale sur laquelle les élèves vont jouer leur vie, quoi?
Non, je pense toujours pas. Mais finalement, poser la question de « et si on supprimait le bac ?», je trouve que ça permet de poser la question « et si on n'avait pas le bac à préparer, qu'est-ce qu'on ferait du lycée ?» Et il y a plein de choses à faire. Mais du coup,
vous répondez oui ou non, faut-il supprimer le bac, même empiriquement, peu importe, mais est-ce que vous dites chiche ?
Moi, j'achète le côté solennité, j'achète le rite de passage, effectivement. J'achète moins tout ce que ça implique derrière que j'ai mentionné. Et Ricardo parlait de la Suède, mais il y a des... Au Danemark, par exemple, effectivement, c'est tout à fait normal de passer beaucoup de temps à préparer son projet professionnel, à faire des... Voilà, apprendre à se connaître, à travailler avec les autres, etc.
Mais qu'est-ce qui se passe pour rentrer dans le supérieur en Suède ou au Danemark, par exemple? Est-ce que les portes sont toutes ouvertes et tout le monde s'inscrit où il veut? Est-ce qu'il y a un nouvel examen, là, pour le coup, pour rentrer dans le supérieur? Parce que c'est ça qui change tout.
Au Danemark, il est très courant de faire une année de césure consacrée à construire son projet professionnel. Et il y a nous, on a visité par exemple une association qui s'appelle l'Année Lumière à Lyon, qui a monté une école sur ce modèle-là. Et quand on parle avec les élèves qui arrivent là-bas, qui sont des élèves qui ont entre 16 et 25 ans, ils se disent, mais c'est super, c'est la première fois qu'on répond vraiment à mes interrogations, à ce que je cherchais. Moi, j'ai commencé des études, je ne m'y retrouvais pas. Où je suis encore au lycée, mais je ne vois pas l'intérêt de passer le bac parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Enfin, voilà, il y a une approche qui est quand même différente.
Je vous ai entendu, Monsieur Mathieu. Je voudrais donner la parole d'abord à Caroline Pascal.
Juste pour dire deux mots. Le premier, c'est que le modèle est vraiment très, très différent. Et en effet, j'allais revenir sur cette année de césure. C'est très différent, même sur l'entrée à l'université, c'est très différent. Je voulais simplement ajouter le fait qu'on ne supprimera pas le stress complet. C'est-à-dire que stress Parcoursup, stress bac, il y a toujours un stress au moment des changements, des transformations.
Je
ne
sais pas si c'est ringard de dire, tant mieux quand même, un peu, non?
Et puis peut-être pour finir, oui. Il en faut aussi du stress. Mais au-delà de ça, on a aussi, nous, à travailler sur le fait que les élèves ne se disent pas qu'ils jouent tout à tel palier. Palier de troisième d'abord, palier de terminale ensuite. On a parlé des réorientations, c'est-à-dire que nous, ce qu'on doit surtout, enseignement scolaire comme enseignement supérieur, travailler au maximum, c'est la possibilité pour les élèves de se découvrir finalement une autre envie ou une autre vocation que celle qu'il avait prévue à tel ou tel âge. Et ce système de passerelle, de réorientation, d'ouverture, éventuellement même avec des parcours plus larges au départ et puis qui se spécialisent au fur et à mesure, est aussi sans doute ce que nous devons améliorer, et ça, ce sera vraiment de la limitation du stress.
Ce niveau, cette idée, effectivement, Pierre Mathieu, de jouer sa vie dès qu'on fait un choix, dont on nous demande de le faire de plus en plus en amont d'ailleurs, il y avait aussi le sentiment de jouer toute sa vie quand on avait un examen final à passer avec cette épreuve, et c'était ça passe ou ça casse. Est-ce qu'il y a moyen, comme le dit Caroline Pascal, c'est même pas de dédramatiser en fait, c'est de ne rien rendre aussi définitif que les élèves ont le sentiment que leurs choix sont, en fait.
Par rapport à la Finlande, on a parlé des comparaisons. Alors, comme l'a dit Caroline Pascal, comparaison n'est pas raison, parce que notre système scolaire en France est très très marqué par la culture de la note. On a un système très très élitiste, la note, la meilleure note possible, la meilleure mention possible.
Oui, c'est très français.
Je pense que c'est très 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 stressant, mais je crois que tout le monde est d'accord. Les professeurs eux-mêmes sont souvent des gens qui ont eu de très bonnes notes au lycée, de très bonnes mentions, donc ils sont eux-mêmes attachés. C'est un peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez. Ils sont attachés à un système dont par ailleurs ils mesurent les limites. Donc, c'est assez compliqué de le faire évoluer. Mais disons que effectivement, effectivement, les autres systèmes, au moins, ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est une banalisation du parcours. Enfin, une banalisation du parcours, c'est que les années de césure en Allemagne, en Finlande, en Suède sont banalisées entre la terminale et la première année de fac. C'est une année de maturité qui est gagnée. Quand on refait une année, c'est pas nécessairement vécu comme un drame ou comme une catastrophe absolue. Alors qu'en France, quand on a une année de retard dans le système scolaire, on est considéré comme quelqu'un qui est pas bon à l'école. Vous voyez, donc il y a tout plutôt ça, vous voyez, sur lequel il faut travailler. Et je dis juste un mot quand même sur Parcoursup. En fait, la question qui se pose, il y a quand même 900 000 personnes là sur Parcoursup, hein, entre les bacheliers de cette année et ceux qui sont en réorientation dont on a parlé tout à l'heure. Parcoursup, on peut critiquer, mais en même temps, il faut bien se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour permettre l'affectation dans les meilleures conditions possibles de 900 000 jeunes l'année prochaine à la rentrée dans le système. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que, et évidemment, le système probablement le plus évident, c'est de prendre en compte des notes qu'ils obtiennent. Et moi, ma frustration, je me répète, mais c'est que, évidemment, du fait du repositionnement des épreuves de spécialité au mois de juin, pour des raisons que Caroline Pascal a exposées et qui sont tout à fait entendables, on a renoncé finalement de facto à ce que les épreuves de spécialité comptent dans Parcoursup. Et donc, ce faisant, on a déconnecté Parcoursup du bac, et je pense qu'on a affaibli le bac. Voilà, et que ce faisant, on a vraiment donné les clés du camion de l'année de terminale à Parcoursup, qui par ailleurs est un outil absolument nécessaire, et on a quelque part renoncé à donner une certaine valeur aux épreuves terminales du bac. Parce que c'est terrible à dire, mais les épreuves de spécialité auraient beaucoup plus de valeur qu'elles n'ont aujourd'hui si elles étaient prises en compte dans Parcoursup. Et les collègues de l'enseignement supérieur, je suis dans l'enseignement supérieur, on serait très heureux, dans les dossiers qu'on reçoit des élèves du lycée, on serait très heureux de pouvoir avoir à la fois des notes de contrôle continu et des notes d'épreuve finale.
Les clés du camion, c'est Parcoursup. Je retiens cette phrase, Pierre Mathieu. Je voudrais vous livrer deux messages reçus par WhatsApp et on va écouter Francine qui nous attend au standard. C'est d'abord Christophe qui nous dit « Désormais, la vraie barrière, c'est le master. Et c'est à ce niveau-là que l'entonnoir a lieu et que des centaines d'étudiants sont bloqués. Est-ce que ça valait le coup de faire monter tout le monde si haut pour un tel résultat ?» Ça, c'est la remarque numéro 1. La remarque numéro 2, c'est Catherine qui dit « Je suis responsable d'une formation de niveau master 2 très sélective. Et même si ce ne sont pas les résultats les plus importants, pourtant, nous regardons quand même les relevés du bac. » Voilà, écoutez bien ceux qui vont passer le bac. Nous les regardons quand même parce qu'ils nous donnent une indication du sérieux des candidats. Donc attention à ne pas bâcler les épreuves, même si effectivement vous avez déjà votre affectation Parcoursup. Pardon. Voici Francine qui nous appelle des Vosges. Bonsoir Francine.
Bonsoir à tous.
On vous écoute.
Alors, je ne pense pas que Parcoursup soit indispensable. Mon mari et moi avons 7 enfants. Nous avons des enfants très grands et d'autres beaucoup plus jeunes. Et nous avons vu une sacrée différence, notamment avec la dernière, puisque Parcoursup est intervenu et que malheureusement, elle n'a pas eu la formation qu'elle souhaitait. Alors, année sympathique, je veux bien. Quand les parents ont les moyens financiers de se faire, c'est pas problématique. Ouais. Mais ça crée aussi chez l'enfant, chez le jeune, un gros souci, c'est que finalement, je veux faire ça, je ne peux pas le faire. C'est une barrière, et c'est une barrière d'autant plus intolérable, qu'elle crée des inégalités supplémentaires, parce que quand les parents ont les moyens de mettre les enfants dans des établissements privés, Parcoursup, ça ne les impacte pas. Mais quand ils n'en ont pas les moyens, ma foi, il faut attendre. Alors nous, notre fille a dû travailler pendant toute la période d'où elle n'est pas allée là où elle avait choisi. Elle est allée en STAPS alors qu'elle voulait être éducatrice de jeunes enfants. Certes, STAPS faisait partie de ses vœux, mais c'était un vœu par défaut. Et elle n'a pas tenu. Et résultat des courses, ça a été une année, entre guillemets, perdue. Mais une année pendant laquelle elle a travaillé, elle a pu se rendre compte à quel point faire des études et surtout faire ce que l'on veut est important.
C'est fou comme cet exemple, il m'intéresse, parce que STAPS, en plus, généralement, il y a une telle file d'attente, il y a tellement de gamins qui veulent aller en STAPS, et voilà la fille de Francine qui y va alors que c'était pas son souhait d'origine. C'est quand même ballot tout ça. Pierre Mathieu, juste une remarque, parce que vous avez réagi au témoignage de Francine.
Oui, juste Fabienne, STAPS est en baisse, et c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il y a beaucoup moins de gens qui demandent STAPS. Et éducateur spécialisé, je réponds à madame, à Francine, que ça a toujours été un concours d'entrée. Donc, en fait, éducateur spécialisé, même avant Parcoursup et même avant APB, il y avait un nombre de places, on passait un concours et on était pris ou on n'était pas pris. N'est-ce pas? Donc, Parcoursup, sur ce segment-là, ce secteur de formation, ça n'a pas changé la donne. C'est-à-dire qu'on peut être candidat parce qu'on a l'aspiration de faire quelque chose, et que ce soit avant Parcoursup ou avec Parcoursup, il se peut qu'on ne soit pas pris. C'est ça aussi qu'il faut apprendre.
Avec Parcoursup, on a des échecs.
Et c'était
c'était de devoir se présenter physiquement à l'entrée dans la filière qu'on voulait le 4 juillet avec notre sac de couchage.
Je me souviens très bien de ça.
Et APB, laisser parfois certaines filières se résoudre par le tirage au sort. Donc Parcoursup a quand même construit beaucoup plus d'équité, on en parlait, et de réussite.
J'étais sûre que ce téléphone sonne sur qu'est-ce qu'on conserve le bac ou pas finirait forcément par un téléphone sonne Parcoursup. C'est toujours le cas et c'est pas grave, c'est quand mieux, c'est comme ça que va la conversation. Il y a quelque chose qu'on a laissé justement à ce sujet-là un peu au loin dans la conversation, Stéphane Lipianski, et je me demandais justement, et finalement ça répond un peu à ce que disait Francine, si l'un des travers, c'était pas que finalement l'enseignement secondaire regarde non seulement les résultats, le contrôle continu, mais regarde surtout où est le lycée, donc dans quel département, ce qu'on sait aussi des départements, etc. S'il n'y avait pas aussi un biais, et que ce biais-là c'était celui-là, est-ce qu'on a vraiment réussi à enlever ce biais-là? Ou alors que, qu'on le veuille ou non, arriver avec son dossier, et qui vient de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs, devant quelqu'un qui cherche à faire rentrer sa prépa, on sait très bien ce que ça va donner.
Alors, on l'a pas totalement supprimé. Il y a encore beaucoup effectivement d'opacité dans les choix qui sont faits au sein des formations, de comment ils sélectionnent, et effectivement. Mais moi, sur la remarque de Francine, je pense que le fait que effectivement sa fille soit et profiter de cette année-là pour aller travailler, découvrir autre chose, ben je pense que peut-être ça a été un peu profitable. Non, ouais. On a pu voir que les jeunes qui avaient déjà travaillé étaient beaucoup moins inquiets, effectivement beaucoup plus optimistes sur leur avenir. Donc peut-être pas une année perdue finalement.
Vous avez 8 secondes, mais vraiment 8 secondes.
8 secondes, je vais très très vite. On a fait une analyse au ministère sur les résultats du contrôle continu et on s'aperçoit, c'est encore trop, mais qu'il n'y a que 14% des établissements qui sont très éloignés des notes d'épreuve terminale par rapport aux notes de contrôle continu que donnaient leurs professeurs. Donc il y a un travail à faire encore, mais c'est en réalité pas du tout majoritaire. Mmh. La plupart des contrôles continus notent normalement.
Allez, révisez votre bac les amis, surtout le grand oral. Tiens, peut-être qu'on y retournera, on y va tous les ans, grand oral, à chaque fois ça suscite de nombreux appels. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Merci à tous pour vos nombreuses questions.